je vais réfléchir avec vous pour poser la question, comment il se fait que la spiritualité ignatienne aujourd'hui exerce un attrait réel sur nos contemporains? La pertinence, en d'autres mots, de la spiritualité ignatienne pour notre temps d'aujourd'hui. Je ne vais donc pas vous donner un aperçu général de la spiritualité ignatienne, vous êtes tous des spécialistes, il n'y a pas besoin de faire ça. Je vais plutôt me concentrer sur certaines caractéristiques de cette pédagogie spirituelle qui enseigne comment trouver et aimer Dieu dans toutes les choses de la vie quotidienne. Il y a environ 2 ans, je recevais un courriel de Luc. Luc n'a pas le profil habituel des personnes qui me contactent. Il a la quarantaine et vient d'une famille très défavorisée. Luc est gay et est marié à un homme depuis de nombreuses années. Il est tatoué de haut en bas, y compris sur ses mains, un rappel de son passé de hooligan de football. Il y a quelques années, Luc a suivi à l'écran une série de télé-réalités. Il s'agissait de célébrités néerlandaises qui s'étaient rendues dans une abbaye. Et là-bas, vous allez me croire ou pas, ils avaient fait des exercices spirituels pendant 8 jours. Tout à fait comme il faut, comme ici, à la Pérenne. Or, ce qui était spécial, c'est que pendant tout ce temps, jour et nuit, 35 professionnels de la télé ont également séjourné dans l'abbaye. Ils ont tout filmé, y compris les entretiens d'accompagnement. Ces enregistrements ont été transformés en 5 épisodes de télé-réalité. Magnifique, beau, passionnant, drôle et surtout authentiquement spirituel. La série a été diffusée, il y en a eu 2, elles ont été diffusées sur une chaîne publique hollandaise à une heure de grande écoute. Et moi, j'ai eu l'honneur de participer à toute cette aventure en tant qu'accompagnateur spirituel. Les fruits de cette aventure ont dépassé toutes les attentes. Jusqu'aujourd'hui, 10 ans après, il a fait connaître la spiritualité ignatienne au sein des églises, notamment protestantes, des Pays-Bas, d'une manière tout à fait attrayante. Pour ma part, je peux dire que ce fut de loin l'expérience pastorale la plus instructive de ma vie de jésuite. Et aujourd'hui, je fête mes 33 ans de jésuite. Merci.
Désolé de vous interrompre, Père Nicolas. Est-ce que le propriétaire de l'Audi 1WLZ554 ? Merci, madame.
Bon, ça a disparu. Tant pis, il n'y a rien à faire. Plus particulièrement, cette aventure, elle m'a appris... Ah, quand même. Elle m'a appris... Ah oui, bon. Elle m'a appris que l'audace apostolique est nécessaire et qu'elle paye. Retour à Luc. Cette série avait touché Luc au plus profond de son âme, à son grand étonnement. Et c'était exactement pourquoi cela avait été conçu, pour donner aux téléspectateurs, au grand public, la chance d'assister à l'aventure spirituelle de leur héros. Et grâce à la dynamique de l'identification à ce héros, le spectateur pouvait à son tour vivre une expérience spirituelle personnelle. Luc avait depuis longtemps perdu complètement ses repères, si jamais il les avait eus. Et petit à petit, une nouvelle perspective est entrée dans sa vie. Le résultat en était que Luc est allé à l'église. Il a commencé à reprendre des études, il était loin dans les trentaines, il a fini ses études secondaires. Et finalement, il a fait des études de théologie et maintenant Luc est professeur de religion. Une histoire inhabituelle. Est-elle pour autant étrange ou exceptionnelle? Je ne le pense pas. Je vois pour ma part pas mal de parallèles avec le récit de la conversion d'Ignace. Nous vivons dans une époque de changement et la transition numérique en est probablement le facteur le plus important. Tout est en mouvement. C'est une boutade, mais c'est vrai, le changement n'a jamais été aussi rapide qu'aujourd'hui et il ne sera plus jamais aussi lent dans l'avenir. L'une des conséquences de cette évolution est que à peu près toutes les certitudes et tous les repères traditionnels semblent être ébranlés. L'Église dans nos pays semble appartenir au passé. La sécularisation est de plus en plus forte. Et le paradigme chrétien, qui nous est tellement familier, semble devenu étranger au monde, tant pour les jeunes que pour les moins jeunes. Et puis il y a le changement climatique, il y a la guerre en Ukraine, toutes les crises internationales qui se suivent, etc. Nous touchons, je pense ici, une première raison pour laquelle notre chère spiritualité ignatienne est actuelle, si actuelle et si pertinente. Notre contexte d'incertitude et de changement est, mutatis mutandis, très similaire de celui d'Ignace il y a 500 ans. Avant sa blessure, le chevalier Ignace ne connaissait que des certitudes. Même aux questions les plus compliquées, il avait toujours une réponse claire et immédiate. C'est le boulet de Pamplune, le boulet de canon, qui va le plonger dans une crise totale. Et l'avenir devient, presque du jour au lendemain pour lui, un grand point d'interrogation. Il ne sait plus. Plus largement, l'ensemble de notre monde occidental traverse à cette époque-ci une crise généralisée. On pourrait dire que la conversion d'Ignace est un long processus d'apprentissage pour faire face à ce non-savoir. L'absence de réponse préétablie est vécue au départ par Ignace comme un énorme problème. Et peu à peu, Ignace va apprendre à y faire face d'une manière différente. Ne pas savoir va devenir une condition pour mieux écouter l'esprit, dans l'ouverture et la liberté. Après quelque temps, Ignace va utiliser pour cela des mots tels que discernement et indifférence. Le discernement, en effet, consiste à apprendre à gérer ses sentiments de manière raisonnée. L'indifférence, pour sa part, n'a rien à voir avec l'apathie. Il s'agit d'oser lâcher ses certitudes, d'autoriser le doute et d'évoluer ainsi vers une attitude de liberté intérieure, d'ouverture et de réceptivité, Ignace apprend ainsi progressivement à écouter l'Esprit de Dieu plutôt que ses envies spontanées. Une autre caractéristique de notre contexte est l'importance croissante du sujet. Je, moi. Me, I and myself, on dit en anglais. Cette dynamique avait déjà commencé à l'époque d'Ignace. Cette subjectivisation est particulièrement aujourd'hui évidente dans le domaine de la vérité. La vérité est de moins en moins objective et de plus en plus subjective. Une chose est vraie si moi j'y crois, parce que moi je décide qu'elle est vraie. À chacun sa vérité n'est plus un slogan, et il en va de même pour le bien et le mal. Dans notre culture numérisée, les mots, M-O-T-S, les mots, ont perdu beaucoup de leur crédibilité. Même dans l'Église catholique aujourd'hui, on peut entendre un cardinal dire blanc et un autre noir. Qui des deux a raison? Même les photos, les vidéos, l'image est aujourd'hui tellement travaillée, voire manipulée, qu'on est presque obligé de les aborder avec méfiance. À qui ou à quoi peut-on aujourd'hui faire confiance? Pour beaucoup, seul le « je » reste un critère fiable pour juger et décider. Les autres sources d'information sont devenues l'objet de suspicion. C'est le cas de dire que cette érosion de la confiance dans la vérité est problématique pour une tradition religieuse, la nôtre à l'occurrence, qui se considère comme porteuse de la vérité. Enfin, les églises perdent rapidement de leur influence. Toutefois, la faim spirituelle demeure. Ces dernières années, et je pense que souvent nous ne nous en rendons pas compte, une industrie florissante du bien-être spirituel a vu le jour. Il s'agit principalement d'acteurs commerciaux qui proposent des produits spirituels à des prix parfois élevés. Ils sont actifs dans l'environnement numérique, tout comme dans l'environnement physique. L'une des raisons de leur succès est leur utilisation systématique de techniques de marketing sophistiquées. Marketing, un mot impossible à utiliser dans le monde chrétien. Et ils sont en train de nous prendre rapidement le marché spirituel et le marché du religieux. Ce contexte, en ce qui me concerne, n'est ni positif ni négatif. Il est ce qu'il est. Il est important de le prendre au sérieux. Et à partir de là, à partir de ce contexte, nous pouvons examiner comment nous pouvons y répondre au mieux avec notre savoir-faire ignatien. J'ai la conviction et l'expérience que notre spiritualité ignatienne est tout à fait en phase avec cette culture contemporaine. Elle dispose de nombreux atouts pour contribuer à cette nouvelle culture. Je mange des petits trucs parce que j'ai un peu mal à la gorge. On pourrait dire que la spiritualité ignatienne est vide. Elle ne consiste pas principalement en un contenu, un message ou une conviction précise. Ce que Ignace nous propose, c'est un cadre, c'est une structure, c'est une méthode qui rend possible une expérience personnelle. Et le déroulement de cette expérience est imprévisible et différent pour chacun. À la fin de ma retraite de 30 jours au noviciat, il y a un bon moment déjà, j'ai écrit un premier petit article sur les exercices spirituels. Et le titre était « Exercice spirituel en liberté ». Pour ceux qui connaissent la spiritualité ignatienne, son ouverture intrinsèque semble évidente. Nous estimons qu'il est normal que celui qui donne les exercices, qu'il soit discret, qu'il choisisse de se taire plutôt que de parler pour ne pas influencer le retraitant. Et de cette manière, il rend possible que l'expérience du retraitant, nous le savons, se développe de la manière la plus personnelle et non influencée qui soit. Nos contemporains aspirent à ce respect et à cette liberté, parce que dans la pratique, ils sont constamment assiégés par le contrôle et la manipulation. Il n'est donc pas surprenant que tant de personnes soient attirées par le type d'expérience que propose Ignace. Les religieuses des monastères, donc les moniales, tout autant que les hommes d'affaires laïcs ou comme le hooligan Luc. Les chrétiens, ayant une spiritualité différente, peuvent également en bénéficier, parce que la spiritualité ignatienne ne s'impose pas. Ce n'est pas comme un petit coucou qui éjecte la spiritualité préexistante. Au contraire, l'approche ignatienne invite, elle aide à purifier et à aiguiser sa propre spiritualité et sa propre tradition de foi. Un jour, j'ai entendu un jésuite américain dire « Le langage qu'utilise Dieu aujourd'hui pour parler est celui de l'expérience humaine. » Le langage qu'utilise Dieu aujourd'hui pour parler est celui de l'expérience humaine. Le génie d'Ignace est d'avoir développé une pédagogie spirituelle qui place l'expérience personnelle au centre. Ignace apprend à trouver Dieu au milieu de la vie ordinaire, notamment, nous le savons, par cette forme de prière qu'est la prière d'alliance, c'est-à-dire la relecture de notre expérience personnelle. Il ne s'agit donc pas tout d'abord de réciter des prières fixes ou d'accomplir des rituels, aucun problème avec ça. Mais il s'agit de trouver Dieu en toute chose. Et cela peut se faire dans la prière, mais également dans toutes sortes d'expériences de la vie quotidienne et donc profane. J'ai mentionné tout à l'heure la suspicion contemporaine à l'égard de ce qui se prétend être vrai. Une spiritualité de l'expérience personnelle peut aider à dépasser cette suspicion. Parce que le pouvoir de conviction de l'expérience personnelle est particulièrement grand. Il ne suffit pas toutefois de mettre en valeur l'expérience. Il faut également être capable de la retravailler, d'en faire quelque chose. Il est nécessaire d'offrir des outils pour lire et interpréter l'expérience. Sinon, l'expérience personnelle peut à son tour devenir un objet de suspicion. Une fois encore, la spiritualité ignatienne s'inscrit parfaitement dans l'esprit de notre temps. Elle fait systématiquement appel à la dimension émotionnelle des sentiments de l'expérience humaine, sans perdre de vue la raison. Le discernement est l'épine dorsale de la spiritualité ignatienne et la matière première, pour ainsi dire, du discernement est le ressenti de chacun, les sentiments. C'est là qu'une personne peut repérer la voix, l'appel de Dieu. Notre culture accorde une grande importance aux sentiments. Ils sont considérés, et à juste titre, je crois, comme la quintessence de l'expérience personnelle. Les sentiments touchent à la partie la plus personnelle, intime et donc unique de notre expérience. En même temps, et c'est là bien un paradoxe, j'ai l'impression que beaucoup de nos contemporains ne savent pas du tout comment gérer, comment traiter, comment interpréter leur vie de cœur, les sentiments. Et Ignace peut nous apprendre beaucoup pour rendre justice à la richesse souvent insoupçonnée de l'expérience du cœur. Je voudrais mentionner trois aspects qui me semblent pertinents pour notre époque. Pardon, j'ai été trop vite. Tout d'abord, Ignace nous aide à découvrir qu'il existe différentes catégories de sentiments. Il y a, pour nous ça peut paraître une évidence, il y a des sentiments superficiels et fugaces qui peuvent être influencés par toutes sortes de facteurs externes. Ils peuvent facilement être manipulés. En outre, ils sont souvent très bruyants et attirent donc facilement l'attention, aussi notre attention personnelle. Beaucoup de nos contemporains ne connaissent que cette couche supérieure de leurs sentiments. Et souvent, ils sont le jouet impuissant de leurs émotions éphémères et en mouvement permanent. Encore et encore, ils risquent de s'y noyer. Cela ne signifie pas que ce soit des personnes superficielles. Cela signifie tout simplement qu'on ne leur a jamais appris qu'il existe aussi une couche plus profonde d'expérience émotionnelle. Ils ne soupçonnent même pas l'existence de cette catégorie de sentiments. Parce que ce niveau plus profond, il est bien plus fiable et plus stable. C'est là qu'on peut retrouver la voie de Dieu. La conversion d'Ignace a tout à voir avec la découverte de cette couche plus profonde, et plus particulièrement de la joie qu'il y découvre. Ignace n'apprend pas seulement à faire la distinction entre les deux catégories, il montre également comment accéder à cette couche plus profonde. et comment l'interpréter. Je sais par expérience, à la fois vécue personnellement et vérifiée en guidant de nombreuses personnes, combien cette découverte peut changer une vie. La spiritualité ignatienne enseigne également comment éviter que ces sentiments, et là je pense plutôt aux sentiments plus profonds, comment éviter qu'ils soient réduits au silence par la raison. Parce qu'une chose est de découvrir ces sentiments plus profonds, une autre est d'être capable de discerner à partir de ces sentiments profonds. Souvent, j'entends des personnes faire des déclarations du style « Je sens que je dois déménager » ou « Je sens que je dois changer de travail ». Or, il n'y a pas de sentiment qui corresponde à « Je dois déménager » ou « Je dois changer de travail ». En faisant précéder une telle déclaration sur le déménagement ou le changement d'emploi par les mots « je sens », elle acquiert, en un certain sens, un caractère indiscutable. Car, après tout, d'une certaine manière, on ne peut pas contredire un sentiment. Cependant, dans les deux exemples que j'ai donnés, il ne s'agit pas de sentiments, mais de pensées. Celui qui dit « je sens que je dois déménager » veut probablement dire « je ne me sens pas bien dans cette maison et je pense que cela signifie que je dois déménager ». Cette tristesse première ne peut pas être contestée. Après tout, il s'agit en effet d'une expérience émotionnelle. Mais la conclusion selon laquelle cela doit conduire à un déménagement n'est qu'une interprétation rationnelle. Elle peut être juste, mais elle peut également être fausse. Il est donc pour le discernement, important de ne pas confondre, comme on le fait souvent, sentiment et raison. Nous laissons trop facilement la raison prendre le dessus sur le cœur. Parce qu'au fond, nous ne pouvons pas contrôler nos sentiments. Nous n'aimons pas ça. Par contre, nous pouvons contrôler notre intelligence. Et cela nous rassure. Le problème est toutefois que la raison, contrairement au sentiment, est hautement objective, ce qui veut dire maximalement impersonnelle. Avant que nous ne nous en rendions compte, elle risque, cette raison, de faire taire l'esprit. Et elle arrête ainsi prématurément la possibilité même de discerner. Enfin, l'expérience du cœur a quelque chose de paradoxal. Il s'agit, donc ces sentiments, il s'agit de notre moi le plus intime. Elle est éminemment subjective. Et en même temps, ces sentiments nous tombent dessus. Nous ne les produisons pas nous-mêmes. Ignace avait l'habitude de façonner sa vie lui-même, en totale, en tout cas très grande autonomie. La voix qu'il apprend à écouter dans son cœur, sur son lit de malade, s'avère lui montrer le chemin d'une vie meilleure, bien meilleure, que celle qu'il pouvait imaginer pour lui-même. Il l'a vécu comme une invitation venant de l'extérieur. Il en vient à être convaincu que c'est Dieu lui-même qui lui parle directement à travers ses sentiments. Et désormais, nous le savons, il va se confier systématiquement à cette voix. D'une part, cette attitude est diamétralement opposée à l'ère du temps, qui est marquée par une autodétermination radicale. En même temps, elle a aussi quelque chose de très attrayant. Après tout, beaucoup de nos contemporains vivent cette autonomie radicale quasi obligatoire comme insupportable. Et ils cherchent et désirent autre chose. Pensez au livre du père Marc de Smet, qui est l'actuel supérieur régional des Flandres et des Pays-Bas, son livre appelé avec le titre « Fatigué de devoir choisir ». Ainsi, la spiritualité ignatienne ouvre une porte vers la transcendance. Et cet accès à la transcendance, à Dieu, se situe au cœur même de l'expérience personnelle, de l'expérience d'autonomie, si vous voulez. À leur manière, les astrologues et les diseurs de bonne aventure font de même. La sagesse ignatienne, la sagesse du discernement ignatien, cependant, donne à la spiritualité ignatienne une crédibilité qui est d'un tout autre ordre. Je l'ai déjà dit, notre culture valorise fortement les sentiments. En même temps, dans la pratique, ces mêmes sentiments sont souvent balayés sous le tapis dès qu'il s'agit de questions importantes. L'intellect prend alors le dessus, sans laisser la moindre place à l'expérience du cœur. L'inverse se produit également. Lorsque les sentiments sont écoutés, cela se fait souvent de manière chaotique et impulsive, sans aucune place pour la raison. Le génie d'Ignace, c'est que dans son savoir-faire en matière de discernement, à la fois le cœur et l'intelligence sont pleinement mises en valeur. Ignace a développé une pédagogie permettant de lire dans le livre du cœur en utilisant la raison. Quel est le poids exact d'une expérience émotionnelle particulière? Comment puis-je l'interpréter dans le contexte de mon histoire émotionnelle personnelle? Quels sont les points communs et les fils rouges que je peux y retrouver? Quelles conclusions puis-je en tirer? Ainsi, l'intellect permet de valoriser pleinement la précieuse vérité portée par les sentiments, par le cœur. Le raisonnement critique permet également d'éviter que ce trésor potentiel d'information ne soit détourné par toutes sortes de perturbateurs qui peuvent empêcher l'oreille intérieure d'écouter correctement. La tradition ignatienne du discernement, avec sa vision réaliste de la complexité et de la fragilité de l'expérience au niveau des sentiments peut aider à remettre en question de manière critique et à purifier le processus de discernement encore et encore. Et son champ d'application est beaucoup plus large que l'expérience directe ou personnelle de la foi. Je pense par exemple à une amie à Amsterdam, une amie qui est magistrate dans une des cours les plus importantes aux Pays-Bas. Elle est très formée sur le plan de la spiritualité ignatienne. Chaque jour, elle reçoit sur son bureau un tas de dossiers compliqués qu'elle doit traiter le jour même. Impossible d'examiner en détail tous ces cas avec leurs arguments juridiques complexes et subtils. Et on en a parlé à plusieurs reprises. Elle constate que souvent, elle est guidée dans ce travail hyper technique de juriste, que dans son jugement, elle est d'abord guidée par son expérience de sentiment. L'argumentation, donc je sens ou je ne sens pas, je sens dans ce sens, c'est plutôt oui au niveau du cœur. Et l'argumentation juridique, très précise, très savante, qu'elle rédige ensuite, est de fait une justification rationnelle, après coup, d'une décision qui a été prise au niveau du cœur. Et soyez sûr que pour la majeure partie de nos hommes politiques et nos femmes politiques, c'est exactement pareil. À un groupe d'hommes d'affaires, je parlais de la technique de discernement communautaire que le pape François utilise désormais dans les synodes des évêques. C'était des hommes d'affaires, certains étaient chrétiens, la majorité n'était pas chrétien. Et tous ont convenu que cela, pour eux, était extrêmement instructif et stimulant pour leur travail de gestionnaire. En bref, dans la spiritualité ignatienne, le cœur et l'intelligence ne sont pas en concurrence. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Ils sont complémentaires. Le cœur et la raison ont chacun leur tâche et se complètent subtilement dans le discernement. Le grand défi pour nous, bien sûr, est de partager cette richesse avec nos contemporains. Pas seulement avec ceux qui sont déjà acquis à la cause. Vous, par exemple, c'est très bien que vous soyez ici, mais vous voyez bien le problème. Le grand défi, c'est de partager cette expérience avec la grande majorité de nos contemporains qui ne sont pas du tout familiers ou familières avec cette spiritualité ignatienne ou la force de l'évangile de Jésus. Cette année, par Zoom, je donne un cycle de conférences, de formations ignatiennes, spiritualité ignatienne, à 400 moniales, réparties, donc une congrégation de moniales réparties sur le monde entier, 400. Moniales, bon, c'est dur, c'est costaud. Mais pendant ces dernières années, j'ai également rédigé une vingtaine d'articles, d'essais, inspirés par, disons, la sagesse ignatienne. Et tous, chacun de ces essais était l'article principal dans une revue très chic, papier glacé, pour dames, aux Pays-Bas. Et cela peut paraître étrange, mais en fait, que ce soit pour ces moniales ou que ce soit pour ces dames papier glacé, en quelque sorte, je raconte la même histoire J'adapte, bien sûr, je contextualise, je n'utilise pas les mêmes mots, mais fondamentalement, je leur fais le même topo. Des mots comme contextualisation, inculturation, adaptation, créativité, nous le savons, font partie de l'ADN de la spiritualité ignatienne. Et en même temps, ils sonnent aussi contemporains que possible. L'année dernière, j'ai écrit un livre sur le discernement. Et j'ai choisi, ça a été un choix délibéré, de laisser de côté presque totalement tout le jargon chrétien et ignatien. C'est-à-dire que j'ai essayé de l'écrire de telle sorte que à la fois des chrétiens et des non-chrétiens puissent s'y retrouver. Et ce qui m'a pas mal marqué, c'est que c'est surtout les chrétiens pratiquants engagés qui étaient très contents avec cette démarche-là. Parce qu'ils m'ont dit que du coup, je leur ai donné des mots, des concepts, des paroles que eux, ils pouvaient utiliser dans leur entourage, au boulot, en famille, bon, partout. Parce que aujourd'hui, être chrétien, c'est exceptionnel. La plupart des gens, nous le savons. Je donne régulièrement des retraites ignatiennes à partir de vidéos, de clips de YouTube. Des clips brefs, souvent loufoques et presque toujours profanes, complètement profanes. Des publicités, des dessins animés et autres. Cela invite à prier, non pas malgré la culture numérique, mais grâce et avec la culture numérique. Deux fois par an, nous proposons avec notre centre spirituel à Amsterdam une retraite numérique à des dizaines de milliers de personnes, dont beaucoup, objectivement, n'ont pas le temps pour prier. Et encore beaucoup moins pour faire une retraite à la Perelle ou à Drone ou n'importe où. Et certains ne peuvent y consacrer que quelques minutes par jour, dans le train ou entre deux réunions. C'est très bien comme ça. C'est le contexte de ces gens et c'est important de le respecter, de le prendre en compte. Être fidèle à l'innovateur qu'était Ignace requiert de la créativité. La transition numérique exige des changements constants et de l'audace. Cet été, le 5 août 2022, dans un message vidéo, le pape François s'est adressé à un congrès sur l'apostolat numérique. Il y a appelé, et je le cite, à ne jamais se lasser de faire des erreurs en proclamant le Christ en ligne. La créativité, autrement dit, signifie, ou l'audace apostolique signifie que l'on doit et peut prendre des risques. Certaines choses auront du succès et d'autres pas du tout. C'est comme ça, c'est pas grave. D'ailleurs, ce besoin d'innovation et de créativité ne s'applique pas seulement à l'environnement numérique. La logique numérique devient rapidement normative pour l'environnement physique également. Et maintenant, la grande question que vous vous posez probablement, est Jésus là-dedans? Parce que jusqu'ici, j'ai à peine mentionné le nom de Jésus. serait-il, pour des tas de raisons que vous pouvez vous imaginer, préférable peut-être de se taire à son sujet? Ce serait bien sûr une conclusion un tout petit peu problématique, notamment parce que les exercices spirituels, le point de départ de toute notre spiritualité, sont à tel point christocentriques. Je pense que là aussi, notre spiritualité ignatienne a des atouts particuliers pour notre époque. Feu le père Adolfo Nicolas, l'ancien supérieur général de la Compagnie de Jésus, a passé la majeure partie de sa vie en Extrême-Orient. Une terre, ou une partie du monde, où les chrétiens sont une minorité. Et le père Nicolas aimait faire la distinction entre la dimension prophétique et la dimension de sagesse de la foi chrétienne. La dimension prophétique touche directement à la personne de Jésus. Le nommer explicitement peut facilement, pour des tas de raisons, rencontrer des résistances. Et il est parfois préférable de faire preuve de prudence. La sagesse ignatienne et la sagesse en général, en revanche, peut facilement rassembler les gens au-delà des frontières religieuses et philosophiques. Et une des forces de la spiritualité ignatienne est qu'elle est à la fois forte en sagesse et sur le plan prophétique. Je sais par expérience de formateur que, par exemple, le discernement ignatienne, que je qualifierais plutôt de faisant partie de la sagesse ignatienne, peut intéresser toutes les catégories de personnes possibles, même les personnes ayant un profil totalement sécularisé. La sagesse ignatienne, encore, est reçue comme du petit lait ou du lait sucré auprès des jeunes, les enseignants, les parents, des hommes d'affaires, et ainsi de suite. Évoquer Jésus est bien plus délicat pour la majorité de nos contemporains. Et pourtant, bien sûr, je parle de lui. Je pense que c'est mon devoir. Je crois également que les gens y ont droit. Et c'est la confiance engendrée par la richesse et la pertinence de la sagesse ignatienne qui peut créer un espace et une bonne volonté pour lever à l'occasion le rideau sur la dimension prophétique. Et en fonction de l'auditoire, je le fais une fois avec prudence et dans d'autres occasions avec abondance, explicitement et jamais de manière relativiste, mais toujours dans le respect de la liberté de conscience de chacun. J'évite systématiquement, quel que soit l'auditoire ou le public, de considérer la foi en Jésus comme une évidence, comme acquise. Je pense qu'elle ne l'a jamais été et elle ne l'est certainement pas à notre époque. Et il me semble que cela s'applique également à la majorité des chrétiens pratiquants d'aujourd'hui. Eux aussi savent par expérience ce que le doute et parfois même la suspicion aussi personnelle au niveau de la foi peuvent signifier. Et la prière ignatienne a la particularité de proposer Jésus, non, justement comme une expérience personnelle. Il ne s'agit pas de parler de Jésus. Il ne s'agit pas de théologie, de piété, d'éthique ou de toute autre doctrine, aussi intéressante que soit, mais bien d'une invitation à une rencontre personnelle, directe, avec Jésus, que l'on peut faire par soi-même, dans la plus grande liberté possible. Et cela peut être une expérience bouleversante, tant pour les personnes sécularisées que pour les chrétiens pratiquants qui n'ont pas été familiarisés avec cette spiritualité. Je conclus. J'ai essayé de montrer que la spiritualité ignatienne possède des atouts exceptionnels pour notre époque et notre culture. La fidélité à la tradition ignatienne exige que nous continuions à opter pour l'inculturation et donc pour l'adaptation constante, pour la créativité et l'audace. Ces dernières sont nécessaires à la fois pour servir le public existant et pour intéresser de nouvelles personnes. Au XVIe siècle, il y a longtemps, au XVIe siècle, les jésuites ont choisi d'intégrer le théâtre dans leur système éducatif. De nos jours, cela semble tout à fait normal. Et tout le monde est d'accord sur le potentiel éducatif du théâtre. Or, savez-vous qu'à l'époque, au XVIe siècle, les acteurs de théâtre avaient le même statut social que des prostituées, qui ne tente rien, n'a rien. Il n'est donc peut-être pas si révolutionnaire que ça de faire de la télé-réalité ignatienne. Et l'expérience de Luc, l'ancien hooligan, illustre bien que l'audace créative permet d'aller au-delà de nos cercles familiers et d'amener de nouvelles personnes à entrer en profondeur avec l'Évangile. Et n'est-ce pas là précisément notre tâche? Merci pour votre attention.
Alors maintenant, si vous voulez poser une question ou l'autre, nous avons encore 5-6 minutes ici ensemble. Et puis, nous devons attendre le technicien qui va réparer l'écran pour vous projeter le film. Donc, il est en route, il est peut-être même déjà à l'entrée de la propriété, enfin j'espère. Et puis, mais ne vous éloignez pas trop, parce que si vous pouvez rester sur place, c'est même mieux. Mais voilà, est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui souhaitent poser une question? Voilà, Odile.
J'ai une question très concrète concernant cette série. Alors, je vais les poser tout de suite et après, vous pouvez répondre. La première, est-ce qu'on peut encore la voir? Et la deuxième, est-ce... j'ai pas tout à fait bien compris. La retraite a été filmée, mais elle n'a pas été montée comme série. Ensuite, ça a servi comme base pour un scénario où la retraite elle-même a été montée en série.
Donc, c'était quand même une expérience assez surprenante. Donc, qui a été montée par le Evangelis Omroep, c'est-à-dire une chaîne évangélique très confessante. Mais ayant des moyens très importants, parce que ça coûtait 1 million d'euros. Et ils l'ont payé, et il ne fallait pas... Ils ne nous freinaient pas du tout, c'était nous qui devions les freiner parce qu'ils voulaient que ce soit Jésus, 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 du début à la fin. Donc on a dit calmement, on va construire petit à petit, et après quelques jours, on va commencer avec Jésus la seconde semaine. Il y a d'abord le principe et fondement. Ça a été une retraite, et elle a été filmée en tant que telle, du début à la fin. On avait une totale liberté. Et puis, déjà pendant la retraite, il y avait des gens qui, jour et nuit, ont transcrit le tout et ont cherché dans ce qui se passait des lignes de récit pour construire un récit télévisé, mais qui suivait ce qui se passait pendant la retraite. Donc manipulation zéro, zéro respect à 100%. Et bien sûr, et ça c'est important aussi, on était d'accord que si un des retraitants ou un des accompagnateurs disait cette scène-ci, cette phrase-là, je ne veux pas qu'elle soit montrée, aucune discussion, elle était coupée.
Est-ce que ça peut toujours être revu ?
Oui, je pense que si vous allez sur, c'est en néerlandais, hein, si vous allez sur Uitzendingshumist, vous pouvez Opzoek naar God. Ça s'appelle Opzoek naar God, enquête à la recherche de Dieu, enquête de Dieu. Je pourrais vous montrer, mais bon, le trailer, donc le, comment est-ce qu'on dit le. La bande annonce, il y en a eu en français aussi. Ouais. Et ça, vous pouvez le trouver sur YouTube.